Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Il est 11h52, nous sommes en direct toujours sur Immo et Territoria, justement, troisième et dernière journée de ce 84e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Je vous rassure, il n'était pas là au début, sinon on serait légèrement un peu décrépit. En tout cas, un congrès marqué par beaucoup d'affluence ici avec nos hôtes de Procivis. Et ben, ça tombe bien, parce que je vous propose de faire un débrief avec le président du réseau Procivis, Yannick Debordes. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci Yannick. D'abord, merci également de votre accueil.
C'est un plaisir.
Vous avez été exceptionnel avec nous, de gentillesse et de simplicité, ça fait vraiment plaisir, dans un contexte qui est quand même particulier. Voilà, au nom de toute l'équipe de Web Radio Édition et de Radio Immo et Territoria, on vous remercie, vous et l'ensemble de vos équipes, bien évidemment. Je vous ai vu hier, vous étiez, on a eu la nouvelle ministre du Logement qui s'est dirigée droit vers vous, sur votre stand, où a convergé la plupart des personnes qui étaient ici, surtout c'était blindé de monde. Vous en avez parlé hier. Saluer l'arrivée effectivement de Valérie Létard, vous avez pu avoir quelques échanges. On a envie de savoir quels échanges vous avez pu avoir, puisque effectivement elle n'a pas pu, pour des raisons qu'on comprend, s'exprimer sur le plateau de Radio Immo en attendant le discours de politique générale de Michel Barnier.
La nature des échanges, ils ont été relativement simples. C'est d'abord pourquoi ? Parce que d'abord c'est une élue qui connaît bien le secteur, donc on n'a pas de temps. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à lui représenter qui nous sommes, ce que nous faisons, quelle est la problématique, etc. Elle connaît bien la situation et je pense qu'elle a parfaitement conscience de la situation du secteur actuellement. Évidemment, elle ressent quand même une assez forte pression, puisque comme elle est globalement appréciée de l'ensemble de la filière, ça s'allumait un peu de pression en ce moment. Elle a bien vu que tout le monde avait beaucoup d'attentes, qu'on était quand même depuis de très nombreux mois sans réponse à un certain nombre de questions et depuis 3 mois sans rien du tout. Donc il y a un stock quand même de questions, donc il va falloir commencer à épuiser le stock, à descendre. Et puis il y a faut qu'on se mette très vite autour de la table sur quelques sujets. Il y a la loi de finances qui arrive, c'est quand même le premier dossier dans lequel on peut débattre d'un certain nombre de sujets sur le logement. Aujourd'hui il n'y a rien, mais il va falloir qu'on y travaille. Et puis on va voir avec elle, construire avec elle. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui en plus sur le plan personnel a une certaine sensibilité sur ces questions-là, au-delà des aspects politiques. Elle a un parcours qui plaide pour elle, il y a à la fois d'élu. Donc à nous aussi peut-être de changer, d'ajuster un peu notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on l'aide dans les solutions apportées, parce qu'on sait que ces arbitrages seront compliqués. Donc l'aider, ça veut dire ne pas arriver avec trop de choses, prioriser. Peut-être sur des endroits qui nécessitent pas nécessairement beaucoup d'argent, mais où il y a un peu de réglementaire à régler, des choses comme ça, qu'on aille assez vite, qu'on se mette très vite autour de la table, parce que ça, c'est sans impact finance publique ou très peu. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est, je l'avais dit lorsqu'on a ouvert mardi, que c'était un très très bon choix, et à nous de voir comment on fait en sorte que ce choix-là, ils puissent tous ensemble arriver à faire évoluer un certain nombre de sujets.
Alors, on l'a vu, les attentes sont multiples. Je voudrais aussi reposer la question que je vous ai posée hier sur les 38 ministres, il y en a 16 qui sont de plein exercice.
Ouais.
Je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que les négociations ou les arbitrages avec Bercy ont déjà eu lieu ?
Ce qu'on en sait,
parce que accepter le ministère de plein exercice a dû se faire avec des tractations liées aux orientations budgétaires. Vous l'avez dit vous-même hier, ça va être compliqué de boucler le budget 2024. Pour le PLF, prochain PLF, espérons qu'on ne sacrifie pas une énième fois la politique du logement.
Alors, je ne sais pas si les négociations sont faites à fond, mais en tout cas, d'avoir un ministre de plein exercice, c'est-à-dire qui rapporte directement au Premier ministre, c'est quand même un signe assez important. D'abord, c'est un choix du Premier ministre assez fort de se dire, cette matière, donc en l'occurrence le logement, je veux l'avoir moi en direct et je veux pas qu'il y ait un ministre entre le ministre du logement et moi, et donc je vais pouvoir traiter directement. Donc ça c'est quand même aussi un signe qui nous va bien. Alors, j'avais dit l'autre jour, je crois que je l'ai dit sur la tribune, que on se raccroche un peu à des petits signes, parce que faut bien se raccrocher à peu de choses quand il n'y a pas grand chose, mais en tout cas c'est politiquement c'est quand même assez important de souligner ça. Ça peut paraître anodin pour ceux qui connaissent pas très bien les rouages, mais ça ne l'est pas à mon sens. Après, on n'est pas dupes, la situation budgétaire de l'État, on sait dans quel état elle est. Il va falloir donner des gages aussi, je pense, dans quelques semaines à nouveau sur les agences de notation, sur tout un tas de sujets de cette nature-là. Donc, on n'obtiendra pas tout et on va pas revenir 6-7 ans en arrière. C'est pas le but non plus. C'est pas la demande.
Non.
La demande, c'est de dire, est-ce qu'on est d'accord pour trouver les 3 ou 4 ou 5 mesures qui immédiatement peuvent permettre de relancer la production. Pas, on va pas la relancer du jour au lendemain à un niveau où elle était il y a quelques mois. Mais en tout cas, d'arrêter la chute, de relancer une dynamique. De redonner confiance aussi, notamment aux primo-accédants qui sont quand même sortis aujourd'hui du marché, la classe moyenne qui veut accéder, le parcours résidentiel, le restaurer. Et ça, on pense, nous, qu'il y a quand même des petits signes, des décisions qui sont budgétairement sans doute supportables, acceptables. Et puis, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je trouve que la discussion avec Bercy, elle est surtout un peu pipée par le fait que quand on nous annonce une mesure, je pense qu'on n'est pas assez exigeant sur le calcul des impacts. Alors les gens nous disent c'est fait, c'est pas fait, j'en sais rien moi, mais en tout cas, moi quand on me dit on va supprimer le prêt à taux zéro sur 93% du territoire, je pense qu'il faut mettre autour de la table les acteurs pour qu'ils expliquent un peu à ceux qui pensent ça, ce que ça peut avoir comme répercussion en termes de volume de construction, ce que ça peut avoir en termes de répercussion sur la sortie du parc social, et puis...
c'est une réflexion qui est purement budgétaire et technocratique et hors sol.
Qui côtoie un peu Bercy, je l'ai dit je crois, ce micro-là, je ne sais plus si c'est... Parce que j'ai beaucoup parlé depuis 3 jours, donc je ne sais plus à quel micro j'ai dit les choses nécessairement, mais... moi qui côtoie Bercy avec une de mes responsabilités qui nous challenge beaucoup, qui nous demande des hypothèses, des scénarios stressés, des scénarios moins stressés, je pense qu'il pourrait se les imposer aussi un peu dans ses propres décisions. Et nous, on doit l'accompagner là-dessus. Et on fait des hypothèses. On lui dit, si le marché baisse de 10, ça fait ça comme hypothèse, y compris pour vous en termes de TVA, y compris pour les collectivités en termes de droits de mutation. On sait faire ces calculs-là.
Là, ils s'en sont rendus compte de façon pénible.
Non, mais ce qui est dramatique,
parce que quand les collectivités territoriales ont annoncé la baisse des DMTO, les droits de mutation antinomiques, qui était un dernier des relais qu'avait encore l'ensemble des élus locaux, parce qu'il faut quand même penser que les départements aujourd'hui font vivre aussi les communes du département. Je peux vous dire que l'addition, le réveil a été brutal.
Je suis d'accord, mais vous savez que j'ai plusieurs casquettes, mais on les a peu entendus quand on a commencé à alerter sur la crise.
Oui,
Les associations des grandes villes, d'AMF, etc., sur le volet logement, ils ne se sont pas beaucoup saisis des questions. Ils ont toujours dit qu'ils nous soutenaient, etc., c'est pas le problème, mais à un moment donné, il faut aussi faire un peu de politique, quoi. Donc, et effectivement, dans le budget 2024, pour la plupart, c'est la première année de traduction de l'écart réel ou de la chute des droits de mutation, ce qui fait quelques dizaines de millions dans beaucoup de départements en termes d'écart, mais qui était monté aussi à des niveaux qui étaient très élevés. Donc, la fiscalité est un sujet. Le chantier est énorme. Donc, il ne faut pas se tromper entre des solutions de court terme qui peuvent permettre, avant la fin de l'année, à travers le PLF 2025, projet de loi de finances 2025, de donner un petit signe qui permettra de redonner de la confiance et de commencer à inverser la tendance. Et puis, bien évidemment, des mesures qui seront plus structurantes, plus complexes, qu'il faudra négocier de façon peut-être un peu plus âpre, mais qui seront à construire dans les prochains mois. On ne va pas les construire dans les quelques jours de négociation de la loi de finances 2025.
Il faudra combien de temps pour relancer la machine ? Parce que on a une mise du logement qui a été d'ailleurs en son temps proche de Borloo, qui a piloté la Loisanne, qui connaît bien la rue, et qui aime le logement social, on peut le dire, et qui a une vraie appétence sur le logement. Ceci dit, vu le marasme actuel, le nombre d'opérations qui ne sont pas sorties, qui ont déjà été cédées, les permis qui ont été purgés, mais finalement qui ne verront jamais d'opérations. Une catastrophe absolue. Je ne vous parle pas des constructeurs de maisons individuelles, pour qui c'est la mort assurée. Combien de temps pour réparer, sachant qu'on a déjà détruit à peu près 100 000 emplois dans le monde de la construction, dixit le président de la FFB, Olivier Salaron.
Alors la réponse n'est pas simple. Ce qu'il faut juste peut-être se dire quand même, c'est un côté logement social. Je pense que s'il y a quelques signes qui sont donnés de détente et de baisse des exigences, je pense notamment à celle qui devrait arriver en début d'année sur la baisse du livret A, je pense qu'on peut retrouver assez vite des acteurs du logement social qui reboostent la production, en tout cas la leur. Donc ça sera très hétérogène.
Il faudra combien de temps?
Les opérations, il y en a beaucoup dans les placards. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, il y a les permis, etc., elles sortent pas, mais les fonciers sont là et il y aura rien dessus. Donc, s'il faut les ressortir, on est capable de les ressortir.
D'accord.
Donc ça, on doit pouvoir le faire. Sur la question de l'accession à la propriété, moi, sincèrement, je pense que s'il y avait cette mécanique sur le prêt à taux zéro qu'on propose, ce prêt à taux bonifié qu'on propose avec Olivier Salaron, associé à la détente des taux d'intérêt qui est réelle, et qui est parti, donc qui va pas être aussi spectaculaire, mais je pense qu'on va arrêter de rire quand nous on discute avec la Fédération bancaire française. On a passé la barre, on est passé sous la barre des 3,5 au mois de septembre.
Oui.
La tendance est du 3 en fin d'année, et puis c'est entre 2,5 et 2 à la fin 2025.
Sur 20 ans.
Sur 20 ans. Donc on devient
c'est
sur,
énorme.
On devient sur des taux qui sont très, très intéressants.
Mais c'est énorme.
Donc faut y aller. Faut pas hésiter
mais
par rapport à ça.
Combien de temps?
Ça va,
pour que ça vienne bien. Prenons un exemple.
Le seuil des 3, on nous l'annonce
on
pour la fin.
On est à 2,90 sur les taux d'intérêt sur 20 ans en janvier 2025.
Faut y aller.
Pour relancer sur l'ancien, les transactions, ça peut aller plus vite, on est d'accord?
Bien sûr.
On peut avoir les constats sur l'année.
Tout de suite, ouais.
Premier semestre, ouais. D'accord, mais sur la construction.
Sur la, alors, sur la partie maison individuelle, par exemple, si en même
maison
temps on a bougé sur le plateau zéro,
et logement collectif.
On peut le redémarrer assez vite. Alors, ça ne va pas revenir sur les niveaux d'avant parce qu'on n'aura pas les opérateurs. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'on a perdu beaucoup d'opérateurs, donc on ne va pas retrouver. Ce n'est pas parce que vous avez deux opérateurs
alors, quand vous dites perdu,
qui ont coulé. Quand vous avez deux constructeurs de maisons individuelles qui font 100, s'il y en a un de 100 qui disparaît, l'autre ne fera pas 200. Il ne sera pas structuré pour faire 200.
Ben non.
Donc il faut arriver à... Tout ça va se recomposer. On a déjà vécu ça. Alors là, on est descendu de façon beaucoup plus brutale. Donc il y a beaucoup plus de casse. Mais ça va prendre du temps. Sur la promotion immobilière, c'est un paquebot qui est beaucoup plus long. Parce que nous, on est sur des temps très longs. Mais les projets sont dans les tuyaux. Donc
minimum 2 années.
Oui, et puis on a
d'après moi,
on a
deux
petit,
années.
Je vais faire une remarque qui va vous plaire. C'est qu'on arrive aussi sur une échéance électorale municipale qui n'est pas la plus... C'est pas la plus idéale pour relancer une activité de construction.
Donc on rajoute une année de plus.
Voilà, donc on est plutôt sur... On arrête la chute, on stabilise, peut-être on commence à repartir sur,
la
transaction, par exemple.
Et on arrive au présidentiel.
Et puis on est parti, et puis on arrive peut-être à la présidentielle avec quelque chose qui est reparti sur une pente très douce, et du coup on arrive à une présidentielle qui devra une fois, peut-être se saisir de la question du logement de façon massive et arriver à imaginer ce qui a été fait la dernière fois en 95.
En espérant que ça bloque pas, hein. Voilà.
Oui.
Non, parce que... On a les municipales, c'est rien pendant un an, hein, je vous le dis. Bah, vous le savez, rien pendant un an.
C'est moins. C'est pas rien, c'est moins.
Ouais, c'est bon.
Je veux bien moins, rien non.
C'est le.
Vous êtes c'est l'élu.
Voilà, c'est l'élu local. Non mais pour les pros, c'est compliqué.
Et nous aujourd'hui, notre gestion à nous.
On se retrouve après pour les présidentielles. Et
c'est à la fois d'être capable de gérer la préservation de nos outils. D'accepter une dégradation de notre exploitation annuelle sur, ça a été le cas un peu sur 2023, ça sera un peu le cas, je pense, sur certains pour 2024, 2025. Ça dépend comment chacun relance la machine. Donc, faut être capable d'absorber cette exploitation dégradée, sans pour autant mettre en péril la structure financière générale des groupes, parce qu'on est quand même sur des métiers qui sont très consommateurs de fonds propres et qui immobilisent pendant très longtemps les fonds propres. Donc, faut pas se cramer par rapport à ça. Donc ça, c'est la stratégie du réseau et des 46 sociétés du réseau. Ça, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte nous, par rapport à ça. Certes, on a réduit les voilures. Certes, on fait attention. Voilà. Mais on est capable aussi de repartir.
Vous avez été... Moi, alors, ça va vous faire plaisir, bien évidemment, mais c'est vrai. La qualité de votre réseau, le caractère coopératif, le caractère, j'allais dire, solidaire, d'échange, d'informations, vous a permis de résister... finalement, oui. À cette baisse. Je vais même aller plus loin. Je pense que s'il y a une épreuve du modèle Procivis qui existe depuis très longtemps, le réseau, je crois, de 1902 ou 1903...
Alors les premières sociétés, 1908, et le réseau dans sa configuration, il a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Ouais.
Vous imaginez ? Donc c'est intéressant, parce qu'on sait qu'on a bâti le modèle qu'il faut à l'épreuve des événements et des obstacles présents. Moi, j'observe que votre réseau, par sa configuration, son ADN, son caractère coopératif, résiste mieux que les autres.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'emballe moins quand le marché est hyper euphorique.
Exactement.
On a peut-être, et on le reconnaît à quelques-uns, parce qu'on est 45, donc on a des stratégies qui sont proches, mais qui peuvent être un peu variantes. On reconnaît que, et moi je fais plutôt partie de cela, qu'on a peut-être appuyé sur le frein plus tôt, plus fort. Ce qui veut dire aussi qu'on est moins en risque aujourd'hui, moins exposé. Donc ça, c'est l'ADN. On est aussi très décentralisé et territorialisé. Donc les 46...
Moi, je pense
on connaît bien nos territoires.
Je pense également que vous êtes aussi... dans une certaine mesure contracyclique, c'est-à-dire que vous avez... La stratégie est la même, mais la configuration, la politique d'animation de votre réseau, la configuration telle de ce qui vous lie les uns les autres à travers vos SACICAP, et donc permet effet de réussite. Donc c'est très intéressant votre modèle, parce que je pense qu'il est l'exemple même de ce que pourrait être les alternatives pour la construction de logements neufs.
Nous, on a déjà vécu des crises.
Ouais,
et donc, si je reprends la dernière...
Vous êtes ultra solidaire.
On est solidaire, et puis on est toujours là sur les territoires. Et moi, je vais prendre un exemple, enfin, en tout cas, je vais illustrer un peu, c'est que en 2008-2009, où la conjoncture s'était un peu durcie, nous, on avait résisté, on était là, donc... sur beaucoup de territoires, les élus étaient contents, ceux qui avaient été élus en 2008, de nous trouver en 2010-2011 pour lancer
bien
les
sûr,
programmes.
Bien sûr.
L'élu ayant par définition la mémoire courte, une fois que tout allait bien, il nous avait un peu oublié et la concurrence arrivait à fond. Et puis là, il nous retrouve à nouveau. On était toujours là, moins présent, moins visible peut-être par moment. Et en tout cas, il y a plus de concurrence. On pesait un peu moins sur le paysage local, mais en tout cas, on est toujours là. Et donc aujourd'hui, ça, que vous alliez à Rodez, à Toulouse, à Strasbourg ou à Brest, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui avec le réseau Pro Civis.
Merci beaucoup, Yannick Borne. Merci à double niveau. C'est merci pour l'accueil et merci pour vos propos et votre engagement. Je rappelle également que vous êtes aussi un élu local, puisque vous êtes le maire de Saint-Berthevin. D'ailleurs, le maire de Laval était, votre collègue était pas loin, d'ailleurs, puisqu'il s'est entretenu également ici sur votre stand avec Valérie Létard. On vous retrouve d'ailleurs, Yannick Borde, on va vous retrouver en direct à partir de 18h30 pour notre grand jury de la presse immobilière en octobre avec toutes les marques de la presse. Merci d'avoir accepté effectivement d'être sous le feu des questions pendant plus d'une heure de direct avec les journalistes de la profession immobilière. Vous serez le grand invité du 24h. Notez bien, le 24 octobre à 18h30, c'est en direct, c'est sur Radio Immo. Merci Yannick Borde. On continue bien sûr le reste de nos programmes. Nous allons recevoir Nadia Bouyer, la directrice générale d'Action Logement Groupe. Nous recevrons également le responsable de l'étape, le régional de l'étape, Mathieu Massot, le patron de FDI Habitat, dans quelques instants. Restez connectés, il est exactement 12h08.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.